Restez informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Le Niger est de nouveau plongé dans la douleur. 37 civils qui cultivaient dans le champ ont été abattus par des terroristes hier. Et puis lutte contre le terrorisme au Burkina cette fois. Plus d'une dizaine de terroristes a été mis hors d'un état de nuit entre le 9 et le 15 août dernier, selon l'armée. Le ministère burkinabé de la Santé appelle la population à la vigilance. Un cas de choléra a été détecté au centre de santé de Tanwalbogou, à l'est du pays. Et puis effondrement complet la semaine dernière du minaret de la mosquée de Djoulassoba. On en parle avec notre invité du jour. Il s'agit de Abdouhari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou, expert en réhabilitation des anciennes mosquées. Bonjour, et nous débutons par le Niger. Au moins 37 civils ont été tués hier par des terroristes à Daridaï, un village de la région de Tillabéri, proche du Mali. Selon des sources locales à l'AFP, l'attaque a été commise par des hommes armés venus à moto. Les assaillants ont tiré sur des gens en train de cultiver leur champ. Ce n'est pas la première fois que le village de Daridaï est attaqué par des terroristes. Le 15 mars dernier, 106 personnes avaient été tuées lors de l'attaque du dit village. Les véhicules qui rentraient du grand marché hebdomadaire de Bani Bangou avaient aussi été pris pour cible. Et puis sans transition, puisqu'on parle de terroristes, cette fois au plan national, une dizaine de terroristes neutralisés, de l'armement et une quinzaine de motos détruites. Tel est le bilan d'une opération aéroterrestre menée le 15 août dernier suite à l'attaque contre les VDP à Belegeyanga, localité située à l'est de Kelboum. Information donnée par l'armée dans le point de la situation hebdomadaire des opérations de sécurisation. Toujours selon ce point, le 9 août dernier, des individus armés ont attaqué le détachement militaire de Tankwalou, localité située à l'est du pays. La riposte du détachement et l'opération de ratissage qui s'en sont suivies ont permis de neutraliser 3 terroristes et de récupérer de l'armement, des munitions et divers matériels. Aucune perte n'a été enregistrée côté FDS. Le Burkina, outre la question sécuritaire et la COVID-19, doit aussi faire face au choléra qui vient de se déclarer sur le territoire. Un cas de choléra a en effet été détecté dimanche au centre de santé de Tanwalbogou à l'est du pays. Le patient, un chauffeur routier malien, a été reçu dans le dit centre et après prélèvement, acheminement des échantillons et analyse, il a été confirmé que c'est un cas de choléra. Information confirmée aux Mega Media par le ministre de la Santé, Chalmany Ouédraogo. Selon le ministre, le malade a séjourné à Zinder au Niger et à Kantiari au Burkina. Il a été immédiatement pris en charge, a-t-il rassuré. Avant cette apparition, le ministère de la Santé avait appelé dans un communiqué la population à la vigilance afin d'éviter toute propagation du choléra, mais aussi de la fièvre de Mabo qui a fait son apparition le 9 août dernier en Guinée. Le ministère de la Santé a indiqué que la maladie de Mabo, causée par un virus, se transmet à l'homme par des chauves-souris frugivores. Elle se propage chez les humains par contact direct avec les fluides corporels des personnes touchées ou avec les surfaces et les matériaux infectés. La maladie commence de façon soudaine avec une forte fièvre, des céphalées intenses, des malaises et parfois des hémorragies dans les selles. Quant au choléra, il s'agit d'une maladie aiguë qui sévit depuis plusieurs années en Afrique et qui est caractérisée par des diarrhées liquides profuses provoquées par le Vibrio choléra. Elle est transmise essentiellement par voie oro-fécale en consommant l'eau ou des aliments contaminés. À cet effet, le ministère invite les populations à consommer de l'eau potable ou bouillie, à laver propre consommée. Ils ont également les populations à éviter l'automédication et à se rendre dans une formation sanitaire en cas de doute. Restons dans le domaine de la santé, l'Union des associations des marchés IA de la région du centre a procédé samedi dernier à Ouagadougou à une collecte de sang pour venir en aide aux personnes déficitaires en cette période de paludisme. Le compte-rendu est signé Pierre Badelot.
Les acteurs de l'économie informelle, notamment l'Union des commerçants de la capitale burkinabé, ont encore fait parler leur cœur à travers une collecte de sang. L'initiative est saluée par les autorités. Moumouni Ouedraogo, représentant le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi.
C'est une initiative que nous saluons donc à sa juste valeur, surtout à cette période de saison de pluie. Et nous savons donc que la saison de pluie généralement rime avec le paludisme au Burkina Faso. Cette initiative donc de don de sang à cette période-là viendra soit peut combler la demande de sang.
Cette collecte de sang fait suite à une forte demande qui est marquée par l'intensification du paludisme au Burkina. Les organisateurs appellent les bonnes volontés à prendre part à cette troisième édition de don du sang. Michel Ramdé, secrétaire de l'Union des commerçants.
Cette période-là, il y a beaucoup de palus et nous traversons encore un moment de l'insécurité. Ce qui nous motive à s'organiser pour donner le sang, pour sauver les gens qui sont dans le besoin. Nous disons à ceux qui hésitent de venir qu'en tout quoi, il n'y a rien de tel. Parce que les gens ont peur que si on enlève le sang, ça peut amener d'autres choses, alors que ce n'est pas ça. Au contraire, même si tu enlèves le sang, ça te rajeunit. Et si tu penses encore que tu vas sauver quelqu'un qui est dans le besoin et qui peut mourir même à cause du manque de sang, c'est très bon de venir donner le sang.
Pour les donneurs, c'est un devoir citoyen qui peut sauver des vies. Il y a Saint-Yanogo, donneur.
Ma motivation est que nous sommes dans une saison pluvieuse et le taux de demande de sang est très élevé également. Donc, pour accomplir ce de voir que je suis venu enlever mon sang afin de sauver la vie de mes semblables également. Ce que Dieu nous a donné gratuitement aussi, je pense qu'on peut également faire ça de façon gratuite quoi. Comme c'est pas de l'argent qu'on nous demande de venir donner, je vois que c'est un geste vraiment qui sauve.
Cette collecte de sang organisée par les acteurs de l'économie informelle qui a débuté ce 14 va s'étendre jusqu'au 24 août dans 11 arrondissements de la capitale burkinabé.
Puis relaxé, mais il devra rester à la disposition de la justice. Qu'est-ce qu'on reproche au leader du mouvement M21, Jessica Dabré, l'agent au téléphone?
Moi, ils m'ont appelé juste hier pour me dire que les faits qui me sont reprochés là, parce que j'ai dit dans une audio, j'ai appelé à la mobilisation autour du problème de Pascal Zaïda, que j'ai demandé aux gens d'user de tous les moyens qu'ils peuvent là pour qu'on sorte Pascal de là, quoi. Donc, ils disent que la charge qui m'est reprochée là, c'est incitation de trouble à l'ordre public et à la rébellion. Je suis poursuivi. Bon, de toute façon, ils ne m'ont pas arrêté toute la journée d'hier de 10h. Je suis entré chez moi vers les 23h. Ils disent qu'ils m'ont mis à la disposition du procureur à tout moment. On peut m'appeler pour ces faits-là. Donc, incitation de trouble à l'ordre public et à la rébellion.
À l'instant, Marcel Tankwano. Conflit foncier dans la commune de Saint-Abba à présent. Le mouvement pour la transparence de la gestion du foncier donne un ultimatum de 72 heures au premier responsable de la commune. Il exige la réponse à leurs revendications qui sont entre autres l'audit de la gestion foncière. Romain Moiré nous en dit plus.
Tour à tour, les différentes entités, en l'occurrence le représentant de la mouvance présidentielle, les leaders du mouvement des jeunes pour la transparence de la gestion du foncier de Saba, les propriétaires terriens, les résidents des zones de dégrépissement et de recasement ont exprimé leur ras-le-bol face à cette situation où ils estiment qu'ils sont victimes et ils ne sont pas écoutés. Alors, ils ont donné un ultimatum de 72 heures. Pour trouver la réponse à leurs revendications, au cas contraire, ils passeront à une vitesse supérieure dans cette revendication. Miley Zagri, secrétaire à l'organisation du mouvement des jeunes pour la transparence de la gestion du foncier de Saba.
Nous avons demandé un audit sérieux sur la gestion foncière à Saba. Pourquoi ils ne sont pas capables de le faire? Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Sont-ils trempés? De toute façon, notre mot d'ordre tient. 72 heures. Si nous ne trouvons pas une oreille attentive. Si on ne prête pas attention à notre cri de cœur, c'est clair, nous allons faire notre propre justice.
La coalition des associations pour la défense du droit au logement a apporté son soutien aux manifestants et pour cause. Daouda Zakariaou, membre du mouvement.
Ils ont donné tous les détails, mais jusqu'à présent, M. Le Maire et ses amis, je peux dire, ne réagissent pas et ils dévient le problème pour envoyer sur un terrain politique. Ça, c'est un. De deux, nous dénonçons aussi la lenteur de la réaction des autorités.
Les actions du mouvement des jeunes pour la transparence de la gestion du foncier de Saba sont taxées d'être politiques, mais les leaders du mouvement répondent. Miles Agri, secrétaire à l'organisation du mouvement des jeunes pour la transparence de la gestion du foncier de Saba.
Il y a des gens qui disent qu'en fait le mouvement est manipulé, il y a des manipulations politiques. Non, nous dénonçons tout ça. Le mouvement est indépendant. Nous ne dépendons d'aucun parti politique. Nous luttons pour la bonne cause de la population. Nous luttons pour la bonne cause de tout le monde. Qui ici là ne veut pas être, ne veut pas avoir sa concession, ne veut pas avoir une maison? Tout le monde veut une maison à Saba ici. Alors, qu'on ne laisse pas notre commune là, hein, qu'on ne la gère pas en fait comme une entreprise et avec un directeur qui est en l'occurrence M. le maire. Voilà, donc c'est tout ça là que nous dénonçons.
Le mouvement des jeunes pour la transparence de la gestion du foncier de Saba reste déterminé dans sa lutte et appelle la population à rester debout pour la finir.
Revue de presse.
La prise de Kaboul par les talibans en Afghanistan est une leçon historique pour les pays du G5 Sahel. C'est le sentiment véhiculé en tout cas par les journaux du jour qui se prononcent également sur la présidentielle en Zambie. La revue de presse est signée Brigitte Yodin.
La situation en Afghanistan et les résultats de la présidentielle en Zambie, diversement appréciés par les quotidiens du jour. Pour aujourd'hui au Faso, l'issue de la guerre en Afghanistan devrait faire réfléchir au Mali et au Sahel. Soit les lointaines plaines talibanes sont à des milliers et des milliers de kilomètres du Sahel, mais notre confrère estime qu'il y a quelques causes en Afghanistan qui expliquent la déliquescence de l'État. Et il cite à ce propos la corruption endémique, le clanisme, trop d'interventionnisme étranger, la malgouvernance et l'absence de l'État, peut-on lire. Allons dans le même sens, Sidoya pense que l'Afghanistan interpelle toutes les consciences démocratiques parce qu'il y a bien d'autres Afghanistan. La Libye en Afrique en est un exemple, la Syrie en Orient également, peut-être en sourdine les pays du G5 Sahel, écrit le journal dans sa rubrique « Traits de plume ». En effet, selon Sidoya, ceux qui indexaient le même Afghanistan, qui serait la pourvoyeuse des armes et le Sahel comme une zone de repli des talibans, doivent aider à poser les vraies questions. Même son de cloche pour le quotidien, pour qui si les pays du G5 Sahel ne tirent pas le son de ce qui s'est passé actuellement en Afghanistan, en unissant leurs forces au sens propre du terme, le jour où la France décidera effectivement de plier bagage avec ses soldats, les capitales des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina risquent de tomber aux mains des groupes terroristes comme en Afghanistan, prévient le quotidien. Et puis, si beaucoup pensaient que la situation en Zambie allait se transformer en une crise post-électorale, ils ont eu tort. La présidentielle qui s'est tenue dans un contexte tendu, mais avec peu d'incidents, s'est terminée sans contestation avec la victoire d'un opposant à la présidentielle, indique le pays, qui pense qu'en attendant la confirmation de ses résultats par l'instance suprême de validation des élections, cette victoire nette et sans bavure de l'opposant dans ce petit pays d'Afrique australe donne des motifs d'espoir démocratique. Maintenant qu'il a été élu, Aikande Ishilema sera jugé tel un maçon au pied du mur, poursuit le pays, en espérant que le candidat de l'UPND, Parti Unifié pour le Développement National, ne fera pas comme ses opposants historiques qui, à l'épreuve du pouvoir, se révèlent bien souvent pires que leurs prédécesseurs qu'ils ont passé des années à combattre pour leur gestion chaotique du pouvoir. Et puis, pour l'Obs, cette victoire de HH en Zambie, comme on le surnomme, doit être à la hauteur des défis économiques qui l'attendent.
Omega Sport.
Et nous retrouvons Benabé Kabré pour l'actualité sportive.
Bertrand Traoré devrait manquer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le joueur burkinabé a rechuté, touché aux ischio-jambiers. Bertrand sera absent 3 à 4 semaines. Le joueur burkinabé avait pourtant signé son retour ce week-end lors de la première journée du championnat anglais. Entré en cours de match, il avait obtenu un penalty et permis à son équipe de réduire la marque face à Watford. Aston Villa s'est finalement incliné 3 buts à 2. Après des mois et des mois d'attente, tous les amoureux de football africain vont assister avec impatience au tirage au sort de la CAN 2021. Il sera effectué ce soir à partir de 18h au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun. Les 24 qualifiés seront répartis en 6 groupes de 4. Les chapeaux ont déjà été constitués par la Confédération africaine de football. Dans le chapeau 1, les têtes de poule, on a le Cameroun, pays organisateur, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Dans le chapeau 2, on retrouve l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Chapeau 3, Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe et Guinée-Bissau. Enfin, dans le chapeau 4, on a le Malawi, le Soudan, la Guinée équatoriale, les Comores, l'Éthiopie et la Gambie. Les barrages allés de la Ligue des champions européennes se disputent ce soir à 19h, temps universel. Le Shakhtar Donetsk de Franck Lassina Traoré sera reçu par l'AS Monaco. Le buteur burkinabé est sur une belle lancée, avec deux buts lors des deux derniers matchs, un en championnat et un en préliminaire retour de la Ligue des champions contre les Belges de Genk. Il y aura aussi ce soir Salzbourg de l'Autriche contre Brøndby du Danemark, Sheriff Tiraspol de la Moldavie face au Dynamo de Zagreb de la Croatie.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité de la rédaction est Alboua Essayouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou, expert en réhabilitation des anciennes mosquées. Avec lui, les questions de l'effondrement complet la semaine dernière du minaret de la mosquée de Djoulassouba. Cet expert a travaillé dans le cadre de la réhabilitation des mosquées de Tombouctou et dans les mosquées en Côte d'Ivoire. Albouari Ben Essayouti est joint au téléphone par Lamine Traoré.
Bonjour Albouari Ben Essayouti.
Bonjour Monsieur Lamine Traoré.
Le minaret de la mosquée de Djoulassouba s'est totalement effondré la semaine dernière. Dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation?
Il faut se dire que c'est des bâtiments en terre, donc construits avec des matériaux extrêmement périssables. Donc il y a un renouvellement constant, une réhabilitation de tous les ensembles qui doit être fait. Donc il y a un ordre. Puisque c'est un bâtiment classé, il y a un protocole de conservation donc à être mis en œuvre et qui est respecté. Notamment avant l'hivernage, avant les grandes pluies, il doit avoir un monitoring qui va consister à recenser toutes les parties vulnérables et à les réhabiliter. Donc ça, en fait, ça peut expliquer ça. Donc, vu qu'on est en période d'hivernage, il a dû y avoir des pluies abondantes qui ont fait qu'il y a eu des infiltrations d'eau. Et ces infiltrations d'eau ont dû causer donc le dégât. Voilà.
Une mosquée construite dans les années 1881.
Qu'on a et les deux autres 15e siècle. Et je pense que la qualité de la terre doit être meilleur au Burkina qu'au Mali. Mais c'est des mosquées qui se conservent plutôt bien. Il y a des problèmes, il y a souvent des dégradations, mais il y a une surveillance de tous les instants de la part des comités de gestion des mosquées, des maçons rattachés à ces mosquées et des services du patrimoine que le ministère de la Culture a installé pour surveiller tout le processus de conservation et de réhabilitation. Donc une mosquée du 19e siècle en terre, bien réhabilitée, n'est pas vraiment une mosquée dégradée.
Il y a deux ans, le gouvernement avait réhabilité une partie de la mosquée. On pourrait se demander qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-ci.
La réhabilitation des bâtiments en terre est très délicate. C'est vraiment une entreprise sourcieuse qui nécessite beaucoup de doigté et il faut vraiment faire appel aux spécialistes en la matière. Donc on s'appuie sur les maçons locaux, sur les architectes du Mali, mais aussi on va plus loin avec Crater, le centre régional d'architecture de terre de Grenoble, qui a une vraie expertise de l'architecture de terre et qui techniquement nous conseille. Donc si on doit réhabiliter un bâtiment, on ne peut pas le faire avec n'importe quelle entreprise locale, avec n'importe quelle compétence locale ou nationale ou internationale, il faudrait qu'au préalable, qu'il y ait une étude, notamment des sondages. Nous, ici, on a fait des fouilles archéologiques, des relevés architecturaux qui nous ont permis d'avoir un canevas de réhabilitation en adéquation avec la nature du bâtiment, des bâtiments.
Vous avez réhabilité des vieilles mosquées au Mali et en Côte d'Ivoire. Avez-vous un pincement au cœur en voyant la situation à Bobo-Dioulasso?
La situation de ce qui se passe au Burkina, c'est vraiment préoccupant parce que nous, en tant que spécialistes du patrimoine, on a l'œil sur cette mosquée de Bobo. Récemment, on a appuyé techniquement les amis ivoiriens pour qu'ils puissent classer des mosquées, je pense, au nombre de 8 des mosquées du Nord Côte d'Ivoire. Vraiment, on se demandait pourquoi la mosquée de Bobo, qui est d'une haute, d'une plus grande dimension, n'est pas classée. Ça peut être corrigé, puisque si ce n'est que le minaret.
Qu'avez-vous à dire comme conseil à l'État burkinabé et à tous les responsables de cette mosquée?
C'est franchement de requérir l'avis, l'expertise des architectes de terre, des maçons du Mali, de Guinée et Tombouctou, de s'ouvrir à l'UNESCO, de s'ouvrir à tous ceux qui peuvent apporter un plus. Et ensemble, la solution pourrait être trouvée.
Merci Al-Bouhari Ben Essaouti.
Merci de m'avoir consulté à propos de la mosquée.
C'était l'invité de la rédaction.
À l'instant, Al-Bouhari Ben Essaouti. Fidèle Compaoré à la technique, Denis Zungrana au micro, Mohamed Nakanabo, la retransmission web. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir. Très bon après-midi à vous.
Radio Omega, l'info en direct.
...103.9 en fréquence modulée. Nous sommes au quatrième étage du centre commercial Laïco sur l'avenue Pascal Zagré à Ouaga 2000. Infoline 226 63 63 61 61 27 59 67. Radio Omega.
Radio Omega Kielgadba, Bangetiam Tempam Radio Omega, TNT Zugumasa. Nyam Sandatampam Radio Omega Kibewa, Anef Sosobe, Burkina Faso.